Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle Onde Noire. Onde Noire qui est, comme toujours, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne, bonsoir à tous.
Eh bien, au sommaire de cette émission, des livres et encore des livres, voilà, des livres qui nous ont bien plu, des livres qui nous ont marqués, et puis...
Et un peu de musique.
Voilà, un peu de musique, et puis le passage de Jean-Marc Lehrer, qui nous parlera lui aussi d'un roman qu'il a beaucoup apprécié. Et je vais commencer par « Rester groupé ». Alors, « Rester groupé », c'est le titre du dernier roman de Sophie Hennaff, qui vient de sortir chez Albin Michel. Donc, c'est un roman, je veux dire, le prix, tiens, pour une fois, 18,50 €. Et ben voilà, j'ai tout dit, puisqu'il n'y a pas de traduction, puisque c'est une Française. Sophie Hennaff, nous avions découvert son premier roman il y a juste un an. Elle nous en avait parlé, d'ailleurs, à cette antenne. Cela s'appelait Poulet grillé. On avait vraiment été attirés par le titre, et puis l'intérieur nous avait beaucoup plu. Et nous avions découvert une bande de branques autour du commissaire Capestan. Chacun des personnages de la brigade tricard des équipes, on va dire, normales. Ce sont des flics hors normes, et dans le précédent, ils avaient débrouillé une sale histoire avec beaucoup de talent. Mais, en salissant au passage les fameux du 36. Les revoilà donc dans un placard, et puis alors tous ensemble. Jusqu'à ce qu'on l'on assassine, dans des conditions un peu étonnantes, le beau-père de Capestan, un flic lui-même à la retraite. Enfin, l'ex-beau-père, puisque on apprend au début du roman que Capestan, le commissaire, a divorcé il n'y a pas longtemps. Alors je précise, Capestan, c'est une femme. Donc voilà, non mais c'est parce que...
Ouais, c'est bien parce que c'est pas évident.
Bah oui, le commissaire, voilà. Donc la bande de bras cassés va utiliser des méthodes qu'on peut qualifier de peu traditionnelles, et c'est un pléonasme, mais redoutablement efficaces, pour tout d'abord relier plusieurs meurtres entre eux, puis pour tenter de trouver les points communs entre les différentes victimes, évidemment pour comprendre cette série où le meurtrier annonce tout d'abord, et de curieuse manière, qui il va tuer et quand. Une fois sur un monument, une fois dans le journal, une fois carrément dans une plaque de rue. Voilà, c'est assez étonnant. En abordant ce deuxième roman, évidemment, on ne peut pas s'empêcher d'être un peu inquiet. La très bonne idée du premier va-t-elle tenir la route dans ce second? Eh bien, la réponse est oui, deux fois oui. D'abord...
Oui.
Oui, c'est ça, c'est ça. D'abord parce qu'on retrouve avec grand plaisir, outre la commissaire, donc Capestan, une femme, tu suis Jacques. Il y a Merlot le Poivreau, il y a Rosière, la scénariste de série, qui fait d'ailleurs profiter toute la brigade de sa richesse. Et apparemment, ça gagne bien hein, quand on écrit des scénarios de série de télévision.
Il y a Thorez. Il faudrait demander à Hugues Pagan.
Voilà, il y a Thorez qui porte malchance. C'est comme ça que plus personne n'en veut. Et puis, il y en a encore beaucoup d'autres. Et Sophie Hennaff continue à nous raconter leur histoire, dosant habilement le burlesque et la tendresse de ses destins cabossés. Deuxième réussite, parce que l'auteur semble avoir une imagination sans limite pour imaginer des situations les plus absurdes, les plus rocambolesques, et que cela passe très bien. Faut voir la description de l'enterrement d'une victime, c'est pas drôle au départ, hein, l'enterrement d'une victime, mais la veuve, elle est atteinte d'Alzheimer. Donc, ça donne, c'est du au vol, c'est à mourir de rire, on peut dire. Voilà. Il y a aussi des petits nouveaux qui vont rejoindre l'équipe et qui sont tout aussi croquignolés, comme ce monsieur de Saint-Lô, qui affirme être déjà là depuis les mousquetaires et qui use donc d'une langue précieuse et totalement décalée. Et puis, il ne faut pas oublier le rat, hein, le rat Ratafia, qui espère bien devenir un auxiliaire de police, puisqu'on sait très bien qu'il y a des chiens auxiliaires de police. Pourquoi il n'y aurait pas de rat policier? Troisième réussite, le récit est rythmé, dense, virevoltant, ne s'essoufflant jamais. L'intrigue n'est pas seulement ici le prétexte pour nous faire vivre la brigade des poulets en délire, mais... Ici, on peut carrément se prendre très facilement au démêlé de l'enquête et ça fonctionne un peu comme une intrigue qu'on veut absolument, dont on veut absolument connaître la fin. L'on peut ajouter qu'il y a malgré tout, dans toute cette fantaisie débridée, une très jolie leçon de tolérance, puisqu'en gros, chacun des personnages, ben, quelque part, c'est un exclu de la société, c'est un exclu d'une brigade, c'est un exclu des fonctionnaires. Et ces exclus de tout poil sont accueillis à chaque fois, non pas comme des bêtes étranges, mais tout simplement comme des êtres humains, par ceux qui sont déjà dans cette brigade et qui savent très bien ce que c'est que d'être rejeté. Et cette petite leçon d'humanité, ça ne fait pas de mal par les temps qui courent. Alors avant de laisser la parole à Jacques pour nous parler de musique, je voudrais simplement préciser qu'au même moment où sort le numéro 2, donc je rappelle, restez groupés chez Albin Michel, et bien le premier Poulet Grillé, toujours de Sophie et Naf, paraît en collection de poche. Voilà, donc si vous voulez découvrir la bande de Branquignol dont je viens de vous parler, eh bien précipitez-vous sur le poche, ça fera moins cher. Jacques, donc un peu de musique.
Un petit peu de musique, donc un duo de blues, du blues folk, ce sont des Bretons. Alors on va écouter un extrait de leur troisième album qui s'appelle Spinning Mind. Donc le duo s'appelle Bobby and Sue. Sue chante, c'est une fille, donc elle chante, elle joue des percussions. Bobby, lui, joue les guitares, les claviers, il chante aussi. Alors le titre que j'ai choisi n'est pas vraiment du blues, plutôt quelque chose de folk, qui pourrait ressembler beaucoup à un titre de David Crosby. Il s'appelle donc Charlie Boy. Voilà, donc c'était Charlie Boy par Bobby Ansou, et nous avons le grand plaisir de retrouver Jean-Marc, l'ARR, qui va nous parler d'un roman états-unien, me semble-t-il.
Oui, c'est bien ça, bonsoir.
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 Donc oui, je vais parler d'un roman qui est paru à la série Noire, une série Noire qui a publié pas mal de choses assez inattendues là, depuis quelques années. Et là, il s'agit du deuxième volume d'une trilogie. Ça s'appelle Les Brillants, un monde meilleur, de Marcus Sacquet. Et c'est traduit par Sébastien, alors je ne sais pas si on dit Reiser ou Reiser, ou enfin, ça s'écrit R.
On a tendance à notre génération à dire Reiser, mais bon.
Voilà.
c'est pas si évident que ça.
Voilà. Donc, c'est un mélange de polar et de science-fiction. En fait, c'est une uchronie, donc dans un passé récent, en fait au début des années 80, le monde a changé et le monde décrit par le livre n'est pas celui qu'on connaît. Donc le point de départ, c'est que dans les années 80, 1% à partir des années 80, 1% des enfants qui sont nés surdoués. On ne sait pas pourquoi, mais c'est comme ça. Et 1%, en fait, c'est énorme. Et on s'est rendu compte du bouleversement que au début des années 2000, quand ces enfants ont commencé à avoir 20 ans. Parce qu'on a tout un tas de génies de 20 ans qui déboulent. Et tous ces génies ne sont pas tous des gentils garçons. Et puis surtout, ceux qui s'appellent depuis les normaux, ils ont commencé à avoir peur. Parce qu'ils ont eu peur de perdre le pouvoir, peur pour leurs enfants. Effectivement, tous ces brillants, ils sont tous. Certains sont de vrais génies. Ils arrivent à gagner des fortunes parce qu'ils savent voir des schémas. Ils arrivent à manipuler tout le monde. Ils ont plein de capacités comme ça. Et du coup, aujourd'hui, les USA sont au bord de la guerre civile. Alors, dans le premier volume, on a suivi le personnage principal qui s'appelle Nick Cooper, qui est un brillant. Lui, il sait lire très très rapidement les schémas, c'est-à-dire qu'il va comprendre en observant quelqu'un quelles vont être ses futures actions, au point qu'il peut même, si comme il est soldat, en plus il sait se battre, il sait ce que va faire la personne en face avant qu'elle démarre.
Ce qui peut être pratique. Mais,
ce qui est très pratique. Mais ce Nick Cooper, donc lui, c'est un brillant qui travaille pour le gouvernement. Parce qu'en face, la peur ayant engendré la violence, on a commencé à brimer les brillants, à les emprisonner facilement, et du coup certains sont devenus terroristes, et Nick Cooper lui traque ces terroristes. À la fin du premier, je vais pas dire ce qui s'est passé, parce que vous pouvez, ils viennent sortir chez Folio. Toujours est-il que le président des États-Unis a changé et Nick Cooper s'est retrouvé conseiller du nouveau président. Et pourquoi conseiller ? Parce qu'il se trouve que dans 3 villes du pays d'importance moyenne, les brillants ont coupé l'électricité, coupé l'approvisionnement des villes. Et la réaction à ça de la part du gouvernement a créé un chaos sans précédent. Avec des scènes de panique, avec des pillages. Et donc, un certain nombre de... Il y a des faucons auprès du président, des va-t-en-guerre, qui voudraient plus ou moins anéantir. Il y a une enclave tenue par les brillants où ils se sont installés pour être en paix. Ils voudraient anéantir ça et le président sent que c'est peut-être pas la bonne solution. Et donc, Nick Cooper va devoir, comme il le dit avec une certaine ironie, sauver le monde. Voilà. Alors... La première chose à dire, comme le premier, c'est vraiment un pied de lecture, quoi. C'est genre de romans très addictifs, comme savent quand même très bien les faire les Américains, comme ils savent faire très bien le cinéma aussi. Quand on l'attaque, on ne peut pas lâcher jusqu'à la fin. Il y a du suspense, il y a des rebondissements, il sait raconter des histoires, il sait très bien décrire les scènes d'action. On aurait envie de rester dans le canapé toute la journée pour lire et voir qu'est-ce qui va se passer après. Et puis, il n'y a pas que ça. C'est pas juste un thriller un peu facile et rentre dedans. Parce que si on regarde bien, on s'aperçoit que tous ces briefs, tous ces gens qui sont décrits comme des terroristes, l'auteur, sans les dédouaner de... quand ils font des vraies saloperies, parce qu'ils en font, sans les dédouaner de ça, il essaye de comprendre quand même. Il essaie de comprendre comment ils en arrivent là. Parfois, on peut changer d'avis sur un personnage qu'on aura vu d'un côté et qui sera peut-être pas si le monstre qu'on croit. Ou certains qu'on croyait avoir compris qui se révèlent être plus tordus et plus... Donc voilà, ce sont des personnages complexes. Et je pense que dans le monde d'aujourd'hui, déjà mettre en scène des gens décrits comme des terroristes par un État... et montrer que c'est pas forcément que des terroristes, c'est assez courageux, je trouve.
Et intéressant.
Et puis, ce qui est intéressant, c'est que, bien sûr, il y a Nick Cooper, c'est le héros, donc on le suit, lui, on est avec lui, on est en empathie, mais tous les autres personnages autour, ils sont pas noirs ou blancs. Ils sont souvent gris. On peut souvent ne pas être d'accord, on peut souvent comprendre leurs raisons, leur motivation sans forcément adhérer à leur façon de faire. Donc on balance souvent, et ça aussi c'est intéressant. Mm. Et ce qui est finalement intéressant, c'est d'arriver à amener à réfléchir, comme ça, même si les thèmes de réflexion, on peut s'en moquer un peu en disant « oui, c'est mal de frapper sur ceux qui sont différents ». Mais n'empêche qu'arriver à amener tout ça, amener de l'ambiguïté dans un roman très facile d'accès, très addictif, je trouve que c'est peut-être pas malvenu en ce moment.
Oui, puis encore une fois, ça amène peut-être... Moi, je dis toujours que lire rend moins con. Donc, voilà. Ça peut influer sur certaines radicalités, certaines gens qui ont tendance à penser en gros à pas prémâcher ce qu'on leur amène par certains médias. Et ça peut donner de temps en temps une petite réflexion plutôt intéressante.
Voilà, en espérant que ces gens qui en ont besoin lisent.
Oui, après il faut, donc il y a des festivals, il y a des librairies, il y a des médiathèques. Il faut absolument, effectivement, aller se procurer ce genre de livres et bien d'autres. Est-ce que, la question évidente, est-ce qu'on peut lire le deuxième sans avoir lu le premier, même s'il empoche maintenant ?
Non, je pense pas. Franchement, d'abord ce serait très très dommage. Et puis non, je crois pas.
C'est un joli pari de la série noire, d'ailleurs.
Comment ?
C'est un joli pari de la série noire, parce qu'avec 10-12 titres par an, d'en faire un qui est difficilement lisible sans avoir eu le premier, c'est... Voilà.
Ouais, ils sortent
après,
le poche en même temps.
Ils sont malins, le folio est sorti en même temps, le premier.
Il va falloir, on donnera un petit mode d'emploi. Voilà, je pense que ça ira mieux. Et le troisième est sorti, est prévu pour 2017, je suppose.
Je suppose aussi.
Voilà, on peut penser. Jean-Marc Laherrer, on va peut-être citer, donc le titre c'est Les Brillants.
Oui, Un monde meilleur pour le deuxième.
L'auteur en est
Marcus Sacquet.
Je vous laisse dire le nom du traducteur.
Sébastien Reiser, alors on va dire.
Voilà, donc c'est à la série noire de chez Gallimard et c'est le deuxième tome. Le premier est ressort ces jours-ci dans la collection
Folio Policier.
On oublie un peu souvent de rappeler qu'on peut retrouver cette chronique d'une manière ou d'une autre, et plein d'autres chroniques de plein d'autres romans noirs, parce que vous êtes très prolixe et que vous lisez beaucoup, sur votre blog. Et donc je vais vous laisser dire le nom du blog.
Ça s'appelle Actu du Noir.
Voilà, donc vous n'avez qu'à taper dans Google Actu du Noir et vous tomberez sur plein de chroniques et plein de livres dont on a envie, que l'on a envie de dévorer.
Et même parfois des mauvaises humeurs.
Ça arrive.
Jean-Marc, merci beaucoup et à très bientôt.
Merci à vous et bonne continuation.
Merci, au revoir. Eh bien, on va se retrouver dans la deuxième partie d'Onde Noire pour d'autres coups de cœur. À très vite.